franceinter.fr.
Bonjour Jean-Christophe Notin.
Bonjour.
Pour le livre Les Guerriers de l'Ombre et un documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine sur Canal+, vous avez réussi à approcher la part la plus secrète de nos services secrets, les agents clandestins de la DGSE. Ce n'est pas tout à fait le service action du contre-espionnage, c'est autre chose, c'est réservé aux missions les plus pointues. C'est un service tellement clandestin qu'on n'en connaît pas le nom.
Non, enfin, disons que les personnes qui ont participé à ce documentaire n'ont pas voulu le citer.
Ils disent c'est un service clandestin. C'est bon. Et les agents clandestins ne connaissent pas les autres clandestins.
Non, alors ils connaissent en général le chef ou le petit état-major qui est autour de lui, mais entre eux, ils ne se connaissent pas.
Ils se fabriquent une légende, on va y revenir, comme dans la série de Canal, le bureau des légendes, c'est-à-dire une autre vie. Alors vous en avez trouvé 13 anciens officiers, chefs de poste, chefs de secteur, qui témoignent de façon anonyme. Dans le documentaire, on les voit en ombre chinoise. Et ils se sont déliés de leur engagement de confidentialité, parce qu'en quittant le service, ils doivent signer quelque chose.
Alors ils n'ont pas tous signé un engagement, mais c'est vrai qu'ils sont tenus normalement à ne pas raconter ce qu'ils ont fait, surtout les plus clandestins d'entre eux.
Ouais.
Après, on est toujours un peu borderline, évidemment, hein, quand on livre ce témoignage-là. C'est eux qui ont été d'accord pour y participer, donc ils savent qu'ils ont franchi certaines règles, normalement, de confidentialité.
Ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de certaines de leurs missions passées. Il est beaucoup question du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Afghanistan. Et ce qu'ils racontent est évidemment, c'est la première chose qu'on retient, c'est évidemment terriblement romanesque, d'abord par leur motivation, ils ne s'en cachent pas, le goût de l'aventure, de la dissimulation. L'un d'entre eux dit la perversité de faire des choses interdites.
Oui, c'est forcément un moteur. Il y a toujours un peu l'imagerie populaire, le patriotisme, les grandes valeurs. Mais en fait, ces gens-là font un métier qui les passionne. Et donc, ils vont chercher de l'adrénaline, ils vont chercher l'interdit, forcément. Donc, il faut recadrer. C'est l'interdit dans les pays où ils sont.
Oui.
Ce n'est pas l'interdit en France. Ils font une activité qui est légale pour la France. Et donc, quand ils sont dans ces pays-là étrangers, où forcément, ils sont dans l'illégalité.
Voilà, on va préciser que pour l'essentiel, ce sont des missions clandestines dans des pays étrangers.
Oui, et pas en France.
Et évidemment, pas en France. C'est le principe du contre-espionnage. L'aventure commence au recrutement. Pour le service clandestin, il y a 2 à 3 semaines de tests de mise en situation. Et par exemple, comme dans Spy Game, ça a été popularisé à ce moment-là, le test de la fenêtre.
On s'est arrêté à un arrêt de bus. Mon instructeur m'a montré un immeuble. Il m'a dit, tu vois le 3e étage? Je lui ai dit, oui. Là, t'as 15 minutes pour apparaître à la fenêtre avec un verre d'eau. Pourquoi un verre d'eau? Les 15 minutes ont commencé. Ok, j'y vais. Et j'y suis allé.
Au bout de 15 minutes ou...
Ah non, beaucoup plus rapidement.
Sachant que la fenêtre en question peut être un appartement privé, peut être des bureaux, peut être n'importe quoi, et qu'il n'y a absolument aucune connivence de la part des personnes qui vivent ou qui travaillent dans cet endroit-là. C'est un peu au libre cours de l'imagination de chacun, mais voilà, il y a la jeune fille qui a perdu son petit chat... Il y a le monsieur qui vient faire des relevés de je ne sais quoi, voilà.
Voilà le test de la fenêtre, extrait du documentaire qui sera donc diffusé la semaine prochaine sur Canal et que vous avez réalisé avec Frédéric Schoenderfer. Donc voilà, et un quart d'heure pour apparaître à cette fenêtre-là qui est choisie au hasard.
Tout à fait au hasard, oui. En général du côté de la place de la République, qui est une station fameuse à Paris, je veux dire, mais surtout qui conduit à la DGSE, la ligne de métro conduit à la DGSE.
Ah oui, d'accord. Autre test, une terrasse de café, il y a une cible, une personne qu'on veut prendre en photo sous tous les angles, et le test qui est donné, le défi, c'est de faire diversion pour que on puisse opérer tranquillement pour prendre des photos.
Il faut attirer l'attention. Ils ont attiré l'attention de l'assistance pour que des gens derrière puissent prendre des photos ou retirer un document. Et donc, en particulier, il y a un des clandestins qui nous raconte comment il a fait en montant, en se jetant sur le comptoir du bar, en hurlant comme un charretier, en se faisant éjecter aussi sec. Donc, test raté. Mais le but de ces tests, en général, est de pousser les limites. C'est pas tellement de le réussir, c'est de pousser les limites. De montrer qu'on peut sortir de soi, en quelque sorte.
Et de montrer aussi qu'on peut... comme un comédien, qu'on est capable de jouer un rôle et de le jouer en permanence, de le jouer pendant toute une tranche de vie, si je puis dire, pendant de longs mois projetés à l'étranger.
C'est avec l'humilité qui les caractérise. Ils ont souvent tendance à se comparer à des comédiens, si ce n'est qu'en effet, c'est des comédiens à vie. Donc il faut le vivre en permanence, à longueur de journée. Et il faut bien voir, ça peut prêter à des situations très cocasses, hein, comme se retrouver au fin fond d'une chambre à Téhéran ou Damas, ou je dis n'importe quoi, à appeler quelqu'un, alors que vous êtes tout seul dans la chambre, à appeler quelqu'un à Paris en faisant comme si vous discutiez avec votre femme, qui n'est évidemment pas votre femme, parce qu'ils peuvent être sur écoute. Donc c'est un rôle en permanence, ils ne peuvent jamais le lâcher. D'où un stress très particulier et des conséquences sur leur caractère, leur comportement et leur vie privée.
D'ailleurs, on parlait de légende tout à l'heure, donc quelle est la différence entre une légende et une couverture?
Alors la légende, c'est la vie que vous vous recréez. Donc ça peut être une fausse identité, ça peut être également votre identité. Mais donc vous inventez une femme, des enfants, une adresse. La couverture, c'est l'activité, donc le métier en quelque sorte. Donc vous pouvez à peu près imaginer tout ce que vous voulez, qui évidemment n'est pas votre métier.
Oui.
Qui va vous permettre d'évoluer à l'étranger et de donner le change aux services locaux.
Même si on privilégie plutôt des professions intellectuelles pour les couvertures, journaliste, étudiant.
Alors, journaliste, ça a pu arriver.
Oui.
Mais il y a tout. Il y a vraiment tout. Représentant commercial, expert en telle matière, linguiste. La palette est très large. D'ailleurs, comme le dit Sandra qu'on vient d'entendre, la couverture des journalistes est maintenant tellement attendue qu'évidemment, ils essaient de ne pas la privilégier.
De faire, d'imaginer autre chose. Alors ça, c'est, je dirais, la partie la plus ludique au sein du service Action, parce que vous avez aussi des anciens du service Action qui témoignent. C'est quand même souvent assez périlleux, physique, avec des entraînements monstrueux. L'un de vos témoins raconte que les entraînements pour les services commando ont lieu à balles réelles et qu'il y a eu des morts.
Oui, oui. C'est assez, hélas, assez régulier. Il y a même des morts en saut à parachute. Parce qu'ils sautent évidemment dans des conditions très particulières. Non pas qu'ils ne respectent pas les règles de sécurité, mais c'est des conditions poussées à l'extrême. Donc il y a assez régulièrement des morts.
Alors vous décrivez, il y a des récits plus ou moins allusifs et plus ou moins directs de missions à l'étranger qui ont fait irruption dans des situations politiques à l'occasion de coups d'État, d'actions terroristes, de choses comme ça, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jean-Christophe Notin?
Vous voulez une mission précise ou...
Par exemple, oui.
Bon, les missions qui sont très développées dans le livre, parce que j'avais déjà écrit sur le sujet. Et une fois de plus, on est très, très à la limite de ce qui peut être raconté.
Oui.
Donc, ce qui a été très détaillé dans le livre, c'est l'Afghanistan. Donc, ce qui concerne la traque de Ben Laden, les talibans, la montée du 11 septembre. Après, de manière allusive, vous pouvez lire dans le livre, en fait, tout un certain nombre de pays qui évidemment n'ont pas été cités, mais qui concernent forcément, c'est pas très compliqué, ça concerne forcément les zones de crise de ces 15 dernières années, et même des zones de crise tout à fait actuelles, mais évidemment dont on ne peut pas citer le nom.
Il y a des pays qui sont directement cités,
oui.
Le Soudan.
Donc le Soudan, la Somalie, l'Irak.
Le Congo.
Le Congo, que je ne vous dise pas de bêtises, mais donc in fine, fort peu.
In fine, fort peu. Mais évidemment, avec le temps et avec les années, on peut aujourd'hui dévoiler et raconter la façon dont la France est directement intervenue dans les situations politiques et dans les évolutions politiques de ces pays.
Oui, alors une fois de plus, les clandestins, ce sont plus des capteurs que vraiment des agents d'influence. C'est toute la beauté de leur métier, c'est de passer totalement inaperçu et de capter le maximum de renseignements. Donc ils ne sont pas forcément pour peser sur la situation. Après, dans le cas de l'Afghanistan, oui, ils avaient des agents, ça dépend du grade de clandestinité, qui en quelque sorte se dévoilent auprès d'un Massoud, auprès de talibans, qui disent « oui, j'appartiens à la DGSE, donc je vous transmets tel message ou donnez-moi tel renseignement ». Mais en règle générale, ce sont des gens qui passent tout à fait inaperçus.
Il y a les techniques de manipulation qui sont détaillées, qui sont racontées, qui sont assez fascinantes. Racontez-nous quel est le sens de l'acronyme MICE, M-I-C-E.
Alors MICE, cher Patrick,
MICE, pardon, MICE.
C'est
alors,
mouse,
oui.
Le pluriel de mouse en anglais. Donc money, M pour money, donc l'argent, vous achetez quelqu'un, vous payez son renseignement en quelque sorte. Donc
ideology. Il n'y a pas de fromage gratuit sauf dans les pièges à rats.
C'est la très belle expression qu'a trouvé un de nos témoins. Donc I comme idéologie, donc soit vis-à-vis de la France, soit dans le pays concerné. C, compromission, donc le chantage. Et eux, ego, donc l'ego, essayer de montrer que la personne est de très très haute valeur et qu'elle a tout intérêt à aider la France.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une combinaison des quatre qui marche. L'argent à lui seul ne suffit pas.
Non. Alors surtout pour les clandestins qui, une fois de plus, ne se dévoilent jamais, on va dire. Donc ils ne peuvent pas payer, puisque payer, ça serait reconnaître qu'ils sont de la DGSE. Donc ils vont plus jouer sur des volets comme l'idéologie et surtout l'ego. Essayer une fois de plus d'installer une relation qui peut être de l'amitié. Et de faire comprendre à la personne que pour aider son pays ou aider la France, il serait bien qu'elle donne tel renseignement. Mais une fois de plus, la personne qui est en face, les agents parlent de sources inconscientes, ne sait pas qu'elle parle à quelqu'un de la DGSE.
On est dans un univers, je répète ce mot souvent, romanesque, dans la façon dont les agents parlent de leur cible, de leur source et de leurs proches aussi. Certains disent qu'ils ont réussi à cacher leurs activités secrètes auprès de leurs femmes, auprès de leurs épouses.
Je peux vous le garantir. D'ailleurs, certains me disent, grâce à ton film, ma femme va voir dans quel milieu j'ai évolué et ce qu'ont été mes missions. Elle ne le sait toujours pas. Elle sait qu'il appartenu à la DGSE, mais elle ne sait pas qu'il appartenu à ce service clandestin.
À ce service clandestin. Donc simplement, on dit « je pars à l'étranger pour... »
En général, soit ils disent « je pars en Afrique » ou « je pars dans tel pays, ils n'y vont pas ». Ou alors, dans le cas vraiment très précis des services clandestins, qui sont vraiment, une fois de plus, c'est la pointe du diamant dans des missions très risquées, ils préfèrent quand même prévenir les épouses qui partent dans le pays concerné. Ils ne disent pas ce qu'ils vont y faire, mais les poussées qui vont en Irak ou dans tel pays.
Ça dure combien de temps ? Combien de temps on peut exercer ce type de double vie ou de...
Comme c'est évidemment une vie très éprouvante, en moyenne, c'est une dizaine, quinzaine d'années. Ouais. Maintenant, vous avez des clandestins qui ont fait ça pendant 30, 35 ans.
30 ou 35 ans, ah oui.
Il y en a un qui vient de sortir très très récemment, qui en était à sa 35e année de clandestinité. Il faut dire que c'était un cas particulier.
On a beaucoup de questions encore à vous poser, puis il y aura celle des auditeurs qui peuvent avoir des curiosités sur les activités, l'intervention de la France. C'est un service assez singulier au sein des services secrets mondiaux. Vous le soulignez dans ce livre. On est un peu en pointe là-dessus. On peut le dire
on
comme
est
ça.
Très en pointe. Il y a vraiment à tout casser 4-5 pays qui ont ce genre de service équivalent. Vous avez l'Angleterre, Israël sans doute, la Russie.
La Russie.
Les Américains, bien entendu.
L'un de vos témoins dit que c'est les Russes les plus forts.
Les Russes, historiquement. Ils ont une très très longue tradition d'infiltration d'agents sur une très très longue durée, pour le coup. Donc des gens qui sont en fait des agents dormants, qui vont rester 30 ans dans un pays sans jamais se dévoiler et sans jamais être activés. Ce qu'on appelait aussi les Spetsnaz en France, dans le cadre de la force de dissuasion nucléaire. Vous avez eu des Russes qui sont venus s'installer, comme par hasard, en bordure des zones de défense nucléaire. Comme par hasard.
Jean-Christophe Notin, Les Guerriers de l'Ombre, ça paraît chez Talendier. Et puis le documentaire à découvrir sur Canal la semaine prochaine, le 7 juin. On vous retrouve dans quelques minutes et dans un instant, ce sera la revue de presse.